elle arrive à Yars and Shaw. Boisé sur le slide, la musique a zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, pis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Cheese 94.3.
Hello, ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CHYZ 94.3, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Il est 4 heures.
Jeudi tout le monde, on est le 17 juin et c'est une grande journée pour mon co-animateur Gabriel Arcand. Bonne fête Gabriel!
Merci, merci, merci. Yes. Un quart de siècle aujourd'hui, quelques pas de doigts de plus ce matin.
Ouh là là.
C'est peut-être la bouteille de vin. Je sais pas.
On verra bien pour la suite des choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a sur le menu? On a Dr. Mad qu'on va interviewer tout de suite après cette intro avec aussi accompagné d'une musique. On va recevoir aussi Mayfly en entrevue à 16h corps pour nous parler de leur nouvelle EP. On va recevoir aussi par téléphone Laure Bourgault qui va nous parler d'un événement qui s'appelle Priorité aux incontournables. Et on va terminer l'émission aussi avec Sarah Jane Wallet qui vient pour la chronique. Chérie, je suis poète, donc on a plusieurs sujets talk aussi à travers tout ça. Mais l'émission du 17 juin de Chérie, j'arrive, ça commence maintenant. On va y aller avec une écoute de Three Words, le featuring avec Levin Kelly. C'est sur l'album de High Classified qui s'appelle Law of Automata Valid. C'est son EP qui est sorti dernièrement avec justement des collaborations à chaque pièce. Et Three Words, eh bien, selon moi, c'est la meilleure qu'il a faite jusqu'à date. Donc après ça, on va avoir une entrevue avec Dr. Mad pour parler des Loop Sessions. On vous explique tout ça après l'écoute.
It's the same three words that come to mind. I can tell you why. Hope you got some time. It's the same three words I feel inside. All the late at night, I don't say goodbye. Possessions, all of these positions, yeah. Got me trying to hold it in a way that they be gripping, yeah. It won't let me go. Going deep, stroke by stroke. Rock the boat, give me though. Go slow, go back. Do it with no hands so you can hold the camera. Hit it in a rap, titties on a grass. How'd I get so lucky that I trust you when you're nasty? So I guess that means we're meant to be. Stop asking me how I feel. You know it's the same three words that come to mind. I can tell you why. Hope you got some time. It's the same three words I feel inside. Call it late at night. I don't say goodbye.
Thank you.
retour à l'émission Chérie J'arrive et on reçoit maintenant Maddy Saoula, a.k.a. Dr. Mad. Salut Maddy, ça va bien?
Salut, ça va et vous? Bonne fête, Gabriel.
Merci, merci. Très apprécié.
Yes, yes.
Donc on te reçoit.
C'est la meilleure musique d'attente que j'ai jamais entendue de ma vie. Si ça pourrait être comme ça tout le temps, ce serait cool.
Yes, on y est allé pour le High Classified parce que ben justement, on est là pour se parler des Loop Session Masterclass et High Classified d'ailleurs va en faire une. Et puis ben en tant que porte-parole, je voulais que tu nous expliques un peu ben en quoi consistent ces masterclass. Mais j'aimerais ça commencer par une présentation de toi. Parle-nous de comment est-ce que tu as commencé à faire du beat, tes inspirations, je te laisse te présenter.
Oui, alors c'est Dr. Mad, ça fait peut-être une dizaine d'années que je fais de la musique activement sur la scène montréalaise, plus précisément la scène hip-hop, mais en général c'est la scène du beat-making que l'on appelle.
Ouais.
J'ai commencé, débuté dans le collectif À l'aise qui en 2011 était justement formé de High Classified, moi-même, mais aussi Cage Anada qui à l'époque était Cage Adamus.
Ouais.
Et plusieurs autres cool artistes qui ont chacun suivi la route et puis leur propre route. Et puis nous voilà aujourd'hui pour de nouveaux projets et c'est celui de Loop Sessions aujourd'hui. Voilà.
Puis,
en gros.
Je me demandais en fait comment est-ce que cette idée-là avait a commencé parce que
oui.
Évidemment au début c'était pas en format virtuel, les beatmakers se voyaient en personne, mais comment est-ce que tout ce projet-là a commencé?
En fait, c'est un duo que je forme avec mon ancien prof d'anglais au secondaire.
Ah,
je
viens
l'appeler
wow.
Mon ancien prof au secondaire, mais qui est aussi un membre actif du groupe Nomadic Massive à Montréal depuis plus de 15 ans.
Mm-hmm.
Et on a fait un duo de beatmakers qui s'appelle The Loop Pilots. Et on a eu la chance de lâcher un album, en fait, de lancer notre album à Sao Paulo en octobre. En janvier 2016. Et eux, à Sao Paulo, à Beat Brasilis, ils avaient un concept qui est toujours actif et qui est essentiellement le même que Loop Session.
Mm-hmm.
Et donc, nous, on s'est dit, ça serait vraiment cool de pouvoir apporter quelque chose comme ça de notre voyage à la communauté de beatmakers à Montréal. C'est ce qu'on a fait quelques mois plus tard. Et puis, ça s'est répandu comme une traînée de poudre sur les 5 continents. C'est un peu un accident, mais on est très, très fiers de ça.
Ben, je comprends aussi. Puis c'est un projet justement qui mérite d'être là parce que souvent, ben, quand on fait référence au rap, au hip-hop, on pense souvent aux rappeurs. Mais j'ai envie de dire aussi que dans les dernières années, il y a des beatmakers qui se sont plus mis de l'avant, mais souvent, on les oublie. Est-ce que tu es d'accord avec moi?
Ouais, absolument. Puis je pense que c'est une tendance qui a repris de l'avant depuis peut-être la fin des années 2010.
Mm-hmm.
Puis on est très content de ça parce que c'est tout un aspect créatif qui est important, essentiel et qui est méconnu aussi de la composition musicale. Tu sais, les producteurs sont souvent pas derrière la caméra, mais tu sais, tu comprends le concept, derrière mm-hmm. les boards, derrière les machines. Mais il y a tout un travail artistique qui est important et c'est ça. Donc Loop Session, on pourrait dire aussi que c'est une initiative pour mettre de l'avant à notre manière le travail des producteurs et des compositeurs.
Évidemment, puis y a des fois des chansons, je pense entre autres sur SoundCloud, où on le met en parenthèse prod by, mais c'est pas sur les grosses plateformes, c'est pas l'habitude. Justement, pour parler des Loop Sessions, ça va être 12 ateliers en ligne interactifs qui vont être gratuits, donc c'est seulement de s'inscrire la journée de l'atelier, puis ça va être offert mensuellement par des artistes spécialistes. On parle entre autres de High Classified tantôt. Une question, c'est loin de moi dans l'idée de te faire un piège, mais c'est pas un peu chaotique de le faire par Zoom, comment ça va se dérouler en fait?
Non, pas du tout. Fait que si tu me permets peut-être d'expliquer rapidement le concept pour nos auditeurs,
je pense
qu'on n'en a pas parlé. Essentiellement, c'est une immersion dans le monde du beatmaking, mais plus concrètement, c'est on va dire un exercice qu'on fait entre compositeurs, amateurs, professionnels, peu importe. Donc, à l'époque où c'était pas justement sur Internet, qu'est-ce qu'on faisait? On sélectionnait un disque, puis on le proposait à nos participants, une trentaine, quarantaine, qui, tour à tour, avait chacun 10 minutes pour l'écouter puis pour l'échantillonner.
Ouais.
Donc, c'est essentiellement ce qui est connu comme l'art du sampling.
Mm-hmm.
On peut soit utiliser les boucles ou on peut s'en inspirer, whatever. Et ce qu'on fait, c'est que, une fois qu'on a les pistes sélectionnées, on fait de la musique, on crée une pièce. On a 3, 4, 5 heures. Et à la fin de cet après-midi, en début de soirée, chacun, tour à tour, des beatmakers, va nous faire écouter ce qu'il a fait. c'est pas une compétition, il y a aucune pression. T'es pas fier de ton travail, t'es pas obligé de t'exposer, mais vraiment, c'est vraiment un, je dirais, une ambiance familiale où est-ce que c'est un exercice de style, hein. C'est, on a eu toutes les mêmes contraintes, toutes les mêmes, on nous a imposé de, tu sais, de sampler un disque, mais pourtant, on a tous, à une quarantaine, on a fait quelque chose de totalement différent, puis c'est ça la magie du projet en tant que tel. Exact. Maintenant, la différence avec les masterclass, c'est qu'on va inviter justement un artiste spécifique qui va nous présenter un disque, mais qui va aussi nous amener dans son monde créatif, c'est-à-dire qu'on va voir un petit peu plus de plus près comment comment cet artiste travaille, comment comment il produit. C'est, sans rentrer vraiment dans le détail de tous ces secrets, c'est juste pour au final inspirer, parce que il y a beaucoup de connaissances qui s'échangent pendant ces projets. Hein. Mm-hmm. Rencontre plutôt.
J'ai une petite question pour toi, en fait, au niveau de moi, mettons, qui n'est pas un beatmaker, mais qui s'intéresse à la culture du beatmaking et de la production et tout ce qui est au niveau de DJing, je pourrais dire comme ça. J'aimerais assister à cette formation sur Zoom. Est-ce que je me dois d'avoir un matériel à la maison pour vous suivre? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne proposez comme programme? Est-ce qu'on est vraiment dans le détail technique aussi dans les présentations que vous avez?
C'est pas très compliqué, en fait. Comment ça se passe, la différence avec sur Zoom maintenant, c'est que c'est sûr que sur Zoom, on invite les beatmakers qui ont participé. Quand eux, ils créent leur pièce, ben là, tout le monde travaille de chez soi. C'est peut-être encore mieux parce que tout le monde est dans le confort de son studio musical plutôt que d'un setup portatif. Ouais. Ils nous envoient leur pièce qui a été composée, une pièce chaque, et on la présente, on la rediffuse à travers Zoom sur la plateforme Twitch. Et à partir de là, c'est un broadcast. Excusez-moi le terme anglais, ce serait quoi en français d'ailleurs?
Diffusion en ligne.
Voilà, c'est ça. Diffusion en ligne sur la plateforme Twitch et tout le monde y a accès, donc le public. C'est un peu comme on faisait en personne aussi, c'est les curieux sont invités autant que les artistes, comme j'ai dit, débutants ou professionnels. Et si quelqu'un veut s'essayer, il n'y a aucune... on ne demande pas d'envoyer votre CV artistique. Là, c'est vraiment... amenez-vous si vous vous sentez d'attaque. Puis si vous voulez voir un peu comment on fait, ben, vous pouvez aussi venir nous regarder sur Twitch, venir voir comment ça se passe. On va faire ça deux fois ce mois-ci, exceptionnellement au mois de juin, et puis une fois par mois à partir de juillet, les derniers mercredis du mois.
Puis je pense que c'est important aussi, ben, que tout ça est à suivre sur les réseaux sociaux, donc le Facebook et l'Instagram de Heartbeat Montréal. On dit aussi que l'idée de ce projet-là, c'est de développer l'esprit collaboratif chez les participants et les participantes, de créer une communauté artistique qui est inclusive et rassembleuse. Moi, je me demandais, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des collaborations entre les différents beatmakers?
Je vais parler vraiment de mon expérience personnelle d'abord. J'ai remarqué que, tu sais, quand on sortait dans des soirées qui réunissaient justement des geeks de musique, pas forcément des concerts, mais vraiment peut-être des soirées de beats ou whatever, c'était souvent, tu sais, la nuit après 10h, 22h, 23h, on se croise, on se dit « Hey, ça va, ça fait longtemps, faudrait qu'on travaille ensemble, ouais, on va se poser. » Le problème, c'est qu'on est dans un environnement très chargé, tu sais, il y a de la musique, il y a du bruit, il y a de l'alcool, puis ben, les promesses, ben, elles tombent souvent à l'eau, puis il y a pas de suite. Ce qu'on a remarqué qui est cool, c'est que les loop sessions, ça se passe dans un après-midi où est-ce que c'est plutôt calme, ils ont le temps de se parler, ils ont le temps de se rencontrer. Et ce qui manquait, c'était en fait une plateforme où est-ce que les beatmakers, ou les artistes tout simplement, hein, parce qu'il y a aussi des vocalistes qui viennent se balader pour voir ce qui se passe, ils peuvent se rencontrer, discuter, échanger d'informations. Et puis on a remarqué qu'il y a eu de plus en plus, non seulement peut-être des beatmakers qui étaient peut-être un petit peu plus solo et peut-être timides dans leur environnement, mais ils se sont mis à lâcher plus de projets. Et pareillement, des duos qui se sont formés. Il y a même une série de concerts qui avait été... Excusez-moi, il y a une moto qui passe. Une petite série de concerts qui s'était passée, qui était organisée en fait par 5 beatmakers très actifs sur la notre scène Loop Sessions. Et moi, je m'étais pas rendu compte. En fait, j'avais été au concert, puis à la fin, ils ont salué Loop Sessions, qui indirectement les a influencés à travailler ensemble. Puis ça m'a vraiment touché. Puis c'est là que j'ai remarqué que c'est important de donner une plateforme où est-ce que les gens peuvent simplement se rencontrer, échanger, puis délirer sur un petit quelque chose comme faire un beat.
Ouais, partager un intérêt commun. Puis c'est cool, j'avais pas pensé nécessairement que l'univers pédagogique de Loop Session amenait aussi cet esprit de réseautage-là. Je pense qu'il y a des très belles collaborations qui vont en ressortir assurément. Puis de voir justement tu parlais que tu avais relancé le projet avec ton prof d'anglais du secondaire, de tomber d'avoir ce rapport pédagogique-là avec des beatmakers en devenir ou des jeunes beatmakers. Comment t'approches ce côté pédagogique-là? C'est venu naturellement chez toi ou c'est quelque chose que t'as appris avec le temps ou t'as une facilité à vulgariser ton art?
C'est une excellente question d'un journaliste qui a fait son travail et qui est très perceptif. Je te salue pour ça.
Merci.
C'est ça, c'est que, bon, oui, effectivement, c'était un prof d'anglais, mais c'était vraiment une parenthèse dans sa vie. Lui, c'est un artiste qui était très axé sur le travail communautaire. Et d'ailleurs, on a travaillé ensemble à la Maison des Jeunes, plus spécifiquement au studio No Bad Sound de la Maison des Jeunes de Côte-des-Neiges. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait des ateliers déjà de beatmaking, d'enregistrement, de performance sur scène à des jeunes. Fait que ça, c'est quoi, il n'y avait pas une démarche vraiment éducative quand on a commencé Loop Sessions, plutôt qu'une démarche créative.
Okay.
Mais c'est vrai que c'est un monde de geeks, c'est mystérieux. Bon, aujourd'hui, on est chanceux, on a des vidéos YouTube qui nous apprennent un peu les outils de base, etc. Mais en réalité, c'est que c'est un puits infini de connaissances, de ce qu'on appelle les plugins, là, tu sais, les programmes sur l'ordinateur, ou même pour ceux qui utilisent des machines, hein, les vieilles MPC, les SP, les SP404 qui sont très populaires. Ben, tout ça, c'est venu un peu naturellement dans cet esprit communautaire où est-ce que chacun a quelque chose en fait à apprendre de l'autre. Et je donnerai un deuxième exemple, c'est par exemple les musiciens. Moi, les musiciens jazz, par exemple, je les admire incroyablement. Ils ont fait des études. Moi, je suis un peu un autodidacte en musique. Mais il se trouve que même un musicien jazz qui est maître de son instrument apprend des beatmakers et évidemment, inversement, le beatmaker apprend d'un musicien. Ça, je trouve que c'est vraiment la force du projet.
C'est une excellente réponse, honnêtement. Très complète aussi. Puis ça me ramène à parler un petit peu. Tu parlais de jazz. On s'entend oui. que tout ce qui vient du rythme, de la substance même, de la musique, beatmaking, ça vient de des très grands noms comme DJ Kool, Grandmaster Flash, Africa, Babata, si je me trompe pas.
Babata, oui.
Pardon pour la prononciation de celui-là, je l'aurais échappé. Tu parlais aussi de la cohésion, même la synergie qu'il peut avoir de musiciens avec le beatmaker. Dans l'univers actuel du beatmaking, dans les duos qui t'ont marqué, est-ce qu'il y en a un que tu peux dire qui t'inspire ou qui t'a donné le vent dans les voiles sur ton projet de Loop Session?
Il y en aurait plusieurs. Là, tu me prends un peu par surprise parce que c'est ma question préférée, peut-être. Mais c'est sûr que Jay Dilla, que tout le monde connaît aujourd'hui, ouais. a insufflé un vent de renouveau dans le monde des producteurs et des beatmakers, et toute la scène qui a été, on va dire, inspirée de lui. Moi, très personnellement, j'ai un artiste que j'adore qui s'appelle Mind Design, qui est genre la troisième ou quatrième génération d'artistes sur le label Stone Throw, dont justement JD a fait partie. Mm-hmm. Mais franchement, il y a tellement de bons beatmakers diversifiés. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que sur le hip-hop, la musique hip-hop, les beats hip-hop sont le centre, on va dire, des Loop Sessions, mais très franchement, il y a aussi de la house.
Ben oui.
J'ai entendu une fois, je veux dire que le projet est dans plusieurs villes, notamment à Toronto, et une fois j'avais entendu une piste trance. C'est quand même particulier comme science. Moi, je ne saurais jamais comment faire de la musique trance. Si. Mais c'est pour dire que vraiment, c'est des horizons qui sont élargis et qui ne se limitent pas seulement au hip-hop, en fait, instrumental.
Moi, j'avais donné l'exemple parce que c'est les noms qui me sont venus en tête et aussi parce que c'est les OG, je vais le dire comme ça, c'est nos original DJ de cet univers-là. Mais c'est super intéressant puis très belle réponse aussi, dans le sens qu'on va pouvoir aller observer ces artistes-là qui te t'accompagnent au quotidien ou t'inspirent au quotidien.
Tout à fait.
Voilà.
Ben, merci beaucoup, Madi Saoula, a.k.a. Dr. Mad, d'être venu nous parler des Loop Session Masterclass qui vont commencer dans 2 jours, qui vont commencer le 19 juin, justement, cette édition de 2021-2022 des Loop Session. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps.
Merci à vous, puis ceux qui nous écoutent, soyez pas gênés, justement, grâce à Internet, si vous êtes à Québec ou dans d'autres villes, joignez-vous à nous.
Et voilà, c'est ça un des avantages de faire ça en virtuel. Merci beaucoup, Dr.
Exactement.
Man.
Salut, à la prochaine.
Merci à vous. Salut.
please bring me back when all we knew was us, and we didn't know how to love. Quand le feu était mieux que tout ça.
De retour à l'émission Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3 et on vient d'avoir une entrevue avec Dr. Mad pour nous parler des Loop Sessions et c'est maintenant le temps de parler avec le duo Mayfly puisqu'ils ont sorti, elles ont sorti leur EP Essence très récemment et on voulait justement parler avec elles. Salut, ça va bien?
Oui, ça va et toi?
Oui, super content de vous avoir à l'autre bout du fil. Donc, j'ai mon co-animateur avec moi, Gabriel Arcand, dont il fête sa fête aujourd'hui. Et on voulait vous poser des questions. Donc, je te laisse commencer, Gabriel.
Ben salut les filles. D'ailleurs, très heureux d'avoir découvert votre projet musical aujourd'hui. En même temps, j'ai assisté, je pense, quasi à votre lancement vidéoclip sur YouTube. Je suis tombé avec quelques heures de différence. J'aimerais savoir, il y avait quand même un certain concept derrière chacun de vos vidéos, le lit et la couette, de où ça vient?
Mais premièrement, enchanté et bonne fête, Gabriel.
Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup.
Le concept, en fait, je crois qu'on a été beaucoup inspirés pour une des chansons du EP, toujours la première chanson du EP, par la série Euphoria. Puis on a essayé un peu de recréer une des scènes parce que la chanson parle de les deux personnages principaux, les deux filles, Rue et Jules. Puis il y a une scène full magnifique qui sont dans un lit. Puis on a essayé un peu de recréer ça, mais comme à notre manière. Donc à la base, c'était comme des clips qu'on faisait juste pour cette chanson-là. On a traîné un lit à comme 5 endroits différents. Puis c'était vraiment nice. Finalement, on était comme « wow, s'il y a 5 endroits différents ». 5 chansons dans le EP, donc il y a eu un endroit pour chaque chanson.
C'est vraiment très original, puis je me demandais si ça avait un peu rapport aussi avec le style de musique que je me permets peut-être de classifier d'un peu de bedroom pop.
OK. Ouais, ben c'est surtout, je pense que c'est un peu relié au fait aussi que l'album est pas mal dreamy.
Ouais,
c'est
exact.
Dream pop un peu, fait que je pense que c'est ça aussi qu'on voulait aller rechercher avec l'effet du lit. Puis,
ouais, mais c'est vrai que ça a un petit effet. Je sais pas si c'était volontaire ou ça vous est venu naturellement. Puis, en apprenant aussi un petit peu par rapport à votre relation entre vous deux, vie de studio, coloc et aussi votre travail directement dans le même appartement, j'imagine que c'est un projet qui est né un petit peu avec la pandémie, l'isolation, ça vous a permis de travailler beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà en branle avant ou c'est quelque chose qui est vraiment né de ce temps-là que vous aviez les deux ensemble?
La pandémie, pour vrai, ça a vraiment déclenché ce EP-là, je dirais, ça nous a permis d'être comme un an isolé puis collé à la maison, à l'appartement. Là, les deux, c'est ça, on est coloc. Puis ça fait comme peut-être un an et demi, deux ans qu'on est à Montréal, mais c'est vraiment juste cette année qu'on a commencé à faire ça full sérieusement, full intensément. Mm-hmm. Et à chaque jour, tu sais, je pense que c'est ultra facile de faire de la musique quand notre studio est littéralement à la pièce à côté. Donc, mais c'est incroyable pour vrai d'avoir à la fois une amitié qui est malade, puis en plus de partager comme ce projet-là ensemble, je pense que c'est la plus belle chose qu'on peut vivre. Puis on est vraiment chanceuse d'avoir eu full de temps cette année là, de faire ça dans le confort de chez nous.
Ça vous occasionne pas un peu de difficulté à décrocher un peu du travail? Ou est-ce que ça vous tracasse à un point de comme « Ah, oh, j'aurais aimé ça, être capable de produire ma tune au complet aujourd'hui ». Est-ce que ça vous a plus motivé ou par moment, en sens contraire, ça vous a peut-être pas un peu... limité dans votre processus créatif d'être toujours dans votre environnement de travail? Tu sais, je pense à plusieurs artistes qui vont faire des retraites dans des chalets où je ne suis pas trop pour écrire, mais d'être constamment dans votre quotidien musical à travailler les deux ensemble et tout. Je sais qu'il y a comme une passion derrière votre musique, ça c'est assuré, en plus c'est un premier EP pour vous. Donc, est-ce qu'il y avait un peu cette dualité-là entre je travaille à la maison, je crée à la maison et je vis dans cette maison-là?
Oui, c'est sûr. Puis comme tu l'as dit, des fois, on dirait que c'est les deux extrêmes. Autant qu'on pouvait passer des jours qu'on faisait juste ça, faire de la musique, qu'autant quand on tombait dans des moods un peu où on faisait pas de musique pendant une semaine, ben ça pouvait durer une semaine, deux semaines. Puis comme que l'on faisait juste vivre dans l'appart, puis on oubliait un peu que comme fallait... étant donné qu'on se déplaçait pas pour aller travailler. Mm-hmm. Ça a été beaucoup au début. C'est pour ça que ça a été quand même long aussi faire la production du EP, parce que non seulement on a voulu apprendre à produire par nous-mêmes et tout, mais c'est aussi que des fois, c'était difficile de gérer un peu son horaire. Il fallait vraiment se mettre des dates précises avec des heures, puis même des limites à un moment donné de quand on voulait que chaque chanson soit terminée, parce que sinon, bien, c'est sûr, ça devient difficile, puis on peut oublier de, comme des fois, se mettre un petit peu des deadlines.
Ouais, ben c'est,
mais
c'est
autant, par exemple, ça a été super, parce que, je veux dire, n'importe quand, on pouvait travailler dessus à chaque jour, que ce soit juste une heure ou comme des fois 8 heures de temps. Ça dépendait vraiment à chaque jour.
Parmi les pièces que vous avez écrites, est-ce qu'il y en a une qui s'est vraiment créée dans un moment, je sais pas, anodin, un matin, une nuit, une anecdote par rapport à une de vos pièces que vous avez créées, une qui vous a peut-être marqué, une chacune d'entre vous?
Pour ma part, je pourrais dire que Toujours, justement, la première chanson dans le EP, c'est effectivement une chanson qu'on a comme créée littéralement, je pense, la soirée, même qu'on a commencé à écouter Euphoria. Il y a juste eu un petit vent de création qui nous a habité, puis comme tout de suite, j'ai commencé à gosser sur la guitare, puis les paroles sont venues full facilement. Puis on était comme, hey, on fait-tu donc une tune par rapport aux personnages? Tu sais, leur histoire est tellement incroyable. C'est comme cette soirée-là, ou peut-être même la soirée d'après. Puis finalement, c'est un peu cette chanson-là qui a dicté toute la direction du EP. On s'est dit, OK, non, il faut vraiment faire quelque chose de plus acoustique, plus raw, tu sais. Donc, ouais, je pense que c'est une des chansons qui a été faite le plus récemment, si on veut.
Ouais, sinon, je dirais, il y a eu When Are We New As Us aussi, que ça a été une des chansons que, on dirait, j'ai juste commencé une soirée, puis la minute, j'ai montré à Charlie, le lendemain, on l'avait fini de l'écrire pas mal, puis... Donc, il y en a d'autres chansons qui ont pris vraiment plus de temps, là, que ce soit même l'écriture, puis tout à come up avec les arrangements musicaux. Mais je dirais que toujours sur When Are We New As Us, ça a été pas mal. Les deux qui ont été faites super rapidement au niveau de comme l'écriture de base, de la chanson. Fait que,
Puis, vous parlez beaucoup de Euphoria, puis je voulais savoir, c'est qui votre. Évidemment, votre première chanson s'appelle To Jules, mais c'est qui votre personnage ou vos personnages préférés?
Oh, c'est une question. Moi, je préférais...
Ben, clairement, les deux principales, ouais, parce que comme on s'identifie beaucoup à Rue et à Jules, donc les deux filles principales, je pense que c'est pour ça qu'on a un gros attachement à cette série-là.
Mais ils ont toutes une couleur aussi, chaque c'est personnage. Vrai. Ils ont toutes une histoire qui est vraiment... même Maddie aussi, elle a une belle histoire. Puis... Mm-hmm.
Mais en gros, c'est juste comme... Le fait que cette émission-là est tellement comme... proche de la réalité des jeunes, je pense, de nos jours, ça fait en sorte que tu peux tellement relate facilement, puis c'est un peu ça qui nous est arrivé. C'est pas parce qu'on a vécu des choses nécessairement similaires à eux ou qu'on a les mêmes histoires, mais c'est juste, je pense, dans leur personnalité puis leur façon de gérer des situations de la vie ou quoi que ce soit, c'est là-dedans qu'on s'est full reconnu. Puis
Puis, dernière question, les filles. On s'entend que vous êtes un duo féminin dans une industrie de la musique qui laisse tranquillement, pas vite, plus de la place à des artistes féminines. Vous avez quand même un projet qui est... que t'sais, je regardais un peu les behind the scenes, qui montre une réalité très féminine, puis... peut-être que c'est moi qui ai une perception, mais d'empowering un peu féminin, est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez absolument mettre de l'avant dans votre projet? Est-ce que c'est une vocation que vous suivez de mettre de l'avant cette féminité et de cette féminité en musique?
Je pense qu'en fait, c'était pas un but donné, mais je pense que ça nous vient juste naturellement. Ouais. Pour nous, ça, en faisant de la musique, ça vient avec, dans le sens que c'est quelque chose, c'est pas comme on se dit... il faut qu'on le démontre absolument, mais je pense que dans qu'est-ce qu'on fait, je veux pas, ça paraît tout le temps parce qu'on crée comme ça un peu, avec comme je pense un côté vraiment féminin, je veux dire. Puis c'est ça aussi, même dans les prochains projets, par exemple, là, on en a vraiment parlé concrètement, qu'on voulait vraiment que ça paraisse encore plus, que ça, c'est vraiment dans les thématiques principales.
Mais c'est très d'actualité aussi.
Et voilà, c'est très, très bien répondu. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, duo qui, en tant que groupe, s'appelle Mayfly. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre plus récent EP qui est... excusez-moi, j'ai voulu mettre une autre chanson, mais j'arrête. En fait, ça s'appelle Essence, excusez-moi. Merci beaucoup, Mayfly, d'avoir répondu à nos questions. C'était super intéressant.
Mais merci à vous.
Merci,
passez une
super belle
journée.
Merci beaucoup, salut.
Bye.
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Et poésie.
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
j'ai fait une passe sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
D'ailleurs, t'es le fondateur de Guillaume.
Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Cette tune-là va prendre à mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
Vous êtes de retour à l'émission Chérie J'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On a eu une entrevue avec Dr. Mad pour nous parler des Loop Sessions. On a eu une entrevue avec le duo Mayfly pour nous parler de leur EP Essence. Et on a maintenant une entrevue avec Laure Bourgault pour parler des priorités aux incontournables. Donc, premièrement, bonjour Laure Bourgault, ça va bien?
Oui, bonjour, ça va bien, oui.
Oui, je voulais qu'on se parle justement pour décrire un peu c'était quoi priorité aux incontournables. Et puis, demain et samedi, il va y avoir d'autres fausses visites guidées. En fait, j'aimerais ça que tu nous présentes pour commencer avant les questions. C'est quoi priorité aux incontournables?
Oui, bien, dans le fond, priorité aux incontournables, c'est une agence touristique fictive qui propose des tours guidés de la base ville de Québec. Donc, il y a les tours guidés, il y a aussi un site web, en fait, pour l'agence, sur lequel on retrouve une vidéo promotionnelle, entre guillemets, donc de ces tours guidés qui, en fait, sont des tours qui reprennent les textes proposé par l'Office de tourisme de Québec, donc les textes officiels qui déconstruisent en fait toute la rhétorique touristique un peu qui est utilisée pour décrire la ville, comme le joyau de l'Amérique française. et donc, j'ai travaillé à partir de ces textes-là pour venir les déconstruire puis créer des tours guidés un peu décalés dans des endroits qui sont pas particulièrement touristique, finalement. Mm-hmm. Donc, voilà.
Avant d'aborder un peu le côté ironique de tout ça, je voulais savoir comment est-ce que ce projet-là est né? Comment tu as eu cette idée-là?
Oui, dans le fond, en fait, c'est le projet est né parce que je m'interrogeais beaucoup. C'est né il y a quelques années, en fait. J'étais en résidence Upstate New York, okay. Donc aux États-Unis. Ouais. Et je m'interrogeais finalement sur le fait que comme artiste, on est souvent amené à faire des résidences, finalement, dans des endroits qu'on connaît très peu. Et à avoir on nous demande souvent d'avoir une pertinence par rapport au contexte culturel, social, politique de l'endroit, finalement, qu'on connaît pas. Et donc, je m'interrogeais sur la posture de l'artiste comme touriste, et sur tout le langage, en fait, tous les codes textuels, mais aussi tous les codes gestuels, finalement, qui nous sont proposés quand on découvre un nouvel endroit, ouais. Et qui viennent modeler la façon dont on interagit avec cet endroit-là, qui viennent vraiment, finalement, diriger le regard sur la ville, les déplacements possibles dans différents endroits. Et donc, c'est ça qui m'a amené finalement à m'intéresser, donc dans le cadre de ce projet-là, avec l'œil de poisson, au discours touristique précisément sur la ville de Québec, donc voir comment ce qu'on en disait, en fait, comment la ville était présentée, quelle histoire était mise de l'avant, quelle aussi voix était mise de côté. Donc c'est un peu ça.
Donc j'aimerais finalement aborder le côté un peu twisté de ton projet, du fait que tu nous le dis que c'est des réinterprétations des textes publicitaires de l'Office du tourisme de Québec. Donc ma question est la suivante, décris-nous comment cet Office du tourisme de Québec romance ou moi comme j'aime bien dire sauce la réalité ou exagère finalement ou en parle d'une façon que finalement on lit ça puis on se dit ben voyons c'est pas vraiment ça.
Pour compléter, Félix, j'aimerais donner un exemple à l'auditoire. En fait, en regardant la vidéo promotionnelle, on a le merveilleux viaduc qui passe dans la basse-ville avec un « Vivez l'émerveillement » à chaque coin de rue, avec un gros plan sur le viaduc. Moi, j'ai trouvé ça incroyablement drôle. Je suis curieux d'en apprendre vraiment comment tu veux comment la twist prend forme, là.
Oui, ben c'est ça, c'est un peu là dans la vidéo par exemple, c'est de faire contraster finalement un discours qui est très très promotionnel, très on invite les gens beaucoup à vivre des aventures authentiques, des expériences incroyables, nouvelles, qui finalement c'est un langage qui est assez colonial, de découvrir des espaces inexplorés, tout ça. Donc c'est assez frappant quand on regarde quand on lit, en fait, le texte, quand on s'attarde au texte, c'est une histoire, finalement, ce qui est mis de l'avant, c'est beaucoup, évidemment, tout l'héritage français, mm-hmm. aussi un petit peu l'héritage britannique de la ville, et très rapidement, donc, on passe de façon peut-être un peu folklorique sur la présence autochtone, mais tout ça de façon vraiment moindre, puis de façon, à mon sens, quand même hypocrite par rapport au traitement qui est fait... qui est réservé en fait aux communautés autochtones. Et donc, ce qui me semblait intéressant dans la satire, dans l'humour, dans le détournement finalement, en apposant des textes grandioses sur des endroits qui sont peut-être moins, ou du moins qui sont moins touristiques d'emblée, c'était de voir comment finalement, avec peu de moyens, c'est peut-être une façon d'apporter une perspective critique. De voir que comme artiste, en tout cas pour ma part, c'est une façon justement de remettre un peu en question l'ordre établi à travers l'humour. Donc à petite dose comme ça, de venir provoquer peut-être un malaise aussi, un inconfort.
Ben justement, moi c'était un peu ma prochaine question, mais tu as quelques éléments de réponse qui font déjà partie de la réponse que tu viens de nous dire. Comment est-ce que finalement l'Office du tourisme ou chaque ville finalement devrait présenter adéquatement leur territoire selon toi?
C'est vraiment une excellente question. Je pense qu'en fait, il y a autant de réponses qu'il y a de populations. Puis je pense que ce qui est assez, à mon avis, problématique, c'est que c'est un discours qui est hégémonique, qui laisse très peu de place à la multiplicité des voix, en fait, qui constitue ben, les communautés de villes, mais aussi de pays, là, si on pense de façon plus large à comment l'industrie touristique régit tout ça. Donc, je n'ai pas de réponse de comment exactement ça devrait être fait, mais
c'est sûr que c'est une très grande question.
C'est une très grande question.
Oui, c'est ça.
Mais je pense que l'humour reste toujours une des langues universelles, je peux dire comme ça. Après, le satire est pour certains pas une forme d'humour, pour d'autres, c'est la meilleure forme.
Je pense que c'est une bonne façon d'ouvrir la porte à peut-être une meilleure façon de décrire de présenter les endroits touristiques. Si on y va plus au volet technique là, de ces fausses visites guidées, comment est-ce que les gens peuvent avoir accès à ces visites guidées?
Oui, en fait, c'est vraiment simple. Il faut aller donc soit directement sur le site de l'Œil de Poisson pour réserver. Donc, il y a un lien pour réserver. Je pense qu'il reste encore quelques places donc pour demain, une visite à 15h30, à 17h, et quelques places pour samedi aussi. Sinon, pour accéder donc au site web de l'agence touristique, c'est priorité-aux-incontournables.ca.
Et voilà. Puis la beauté de la chose aussi de faire une entrevue avec toi entre les deux dates, parce qu'il y a eu des fausses visites guidées le 12 et le 13 juin. Puis il y en a, comme tu l'as dit, demain et samedi. Est-ce que tu as eu des commentaires ou peut-être pas des questionnements, mais des appréciations des gens qui ont finalement fait ces visites guidées?
Oui, ben c'est vraiment une chance là, de pouvoir faire ça deux fins de semaine finalement. Puis je dirais que c'est assez étonnant parce que les réactions sont très variées d'un groupe à l'autre. Je pense qu'il suffit de quelques personnes pour donner le ton finalement. Les performances sont ouvertes aux enfants, donc c'est aussi un public qui est très différent, mm-hmm. Qui prend assez les choses au sérieux aussi. C'est étonnant. Mais c'est sûr que ça permet en fait de tester différentes façons de jouer le texte. Mm-hmm. C'est vraiment précieux.
Définitivement. Je te laisserai conclure avec une façon peut-être de dire à quel point ça vaut la peine d'aller voir cet événement qui s'appelle Priorité aux incontournables.
Mais je pense que cette année, avec la pandémie, on a beaucoup été amenés à porter plus attention aux espaces qui nous entourent, parce que finalement, c'est pas vraiment possible de voyager. Donc, je pense que la performance s'adresse vraiment, en fait, aux personnes de Québec, puis elle a été pensée comme ça aussi, peut-être comme une invitation, finalement, à redécouvrir l'espace qui nous entoure.
Tout à fait. Puis moi, c'est une expression que j'aime bien utiliser souvent, être touriste dans sa propre ville. C'est quelque chose qui vaut la peine. Puis on a la chance de vivre dans une ville qui est spéciale. Mais là, j'utiliserai...
Le joyau de l'Amérique.
Et voilà, j'utiliserai pas les autres mots. Mais je voulais te remercier, Laure Bourgault, d'être venue parler de priorité aux incontournables. Puis on invite les auditeurs et auditrices à justement se procurer des billets pour ces fausses visites guidées.
Et d'aller voir le musée à air ouverte que nous avons.
Aussi.
Mais merci beaucoup.
Merci
beaucoup
au revoir.
À toi, salut.
de mes sentiments que j'éprouve en secret. T'en s'autour de moi pour t'équiper le massacre que tu fais. Mais je sais que tu sais que c'est comme ça. Condoléance à tous ceux qui sont comme moi. Je voudrais te parler de mes sentiments que j'éprouve en secret.
Hubert Lenoir, c'est confirmé, c'est un génie, comme dirait l'autre, contrairement à, comme dirait Dominique Moret. T'en as parlé un peu, Gabriel, qu'est-ce que t'as dit hier?
Hier, j'ai dit que Hubert allait revenir avec un son un peu plus électro, et j'ai eu raison. En fait, je m'étais basé sur sa dernière collaboration qu'il avait faite avec Robert Rabert, j'ai failli scraper son nom, sur Silicon Valley, la chanson « Entendre la nuit se plaindre », oui. Si je ne me trompe pas, pour citer le titre exact.
Ouais.
Donc c'est ça, j'avais dit un Hubert peut-être un peu plus dans le beat, un peu plus dans l'électro, moins dans ce qu'on avait entendu avec l'album d'Arlène, qui était assez éclectique au niveau des genres musicaux. On parlait de jazz, on parlait de rock, des tendances même blues par certains moments. Donc, plus tiré sur la musique afro-américaine, toute dans sa structure d'opéra rock pour ce qui était de Darlene.
Mais tu la connais, cette structure-là, opéra rock. Hein?
Je l'ai écoutée puis je l'ai analysée sur un texte de 10 pages. Fait que oui, je la connais bien, mais je suis vraiment heureux de voir Hubert revenir avec quelque chose de différent. Je m'attendais à quelque chose de différent. Je m'étais dit qu'il y avait peut-être aussi un désir de rupture avec ce qui s'était passé, okay, avec la tension médiatique qui a quand même coupé sa première tournée en deux et qui avait aussi fait bouger énormément de choses avec les médias. Une critique qui n'a pas toujours été favorable en son égard. Peut-être une rupture avec ça, de changer son son aussi.
Puis il y a une histoire assez... c'est vraiment une histoire qui est le fun à suivre. Hein. Il y a eu entre autres aussi Dens of Thieves avec Yes McKen qui a été annoncé au Foufoune Électrique, finalement, qui avait été annulé. Mais là, Hubert Lenoir, on dirait qu'il est complètement, comme tu l'as dit, qui a tourné la page, qui arrive avec un tout nouveau son, une toute nouvelle... Pas une nouvelle personnalité, évidemment, parce qu'on reconnaît encore, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau... il y a un vidéoclip, finalement, qui accompagne cette chanson-là. On le reconnaît aussi. En fait, il nous dévoile son plus grand secret, et c'est en compagnie de Mac DeMarco au drum, qui... Oui. C'est pas n'importe qui.
Mac DeMarco, et puis en guitare...
Kieran J. Callinan, qui avait déjà fait une collaboration avec Hubert Lenoir. Moi, je le connais pas beaucoup.
Selon les dires de Hubert, et je cite Radio-Canada or pour ça. Okay. C'est important. Ils ont fait un beau travail pour dépeindre la sortie du single. Ce serait deux de ses musiciens préférés avec qui il a vraiment cherché une grande collaboration pour ce single-là qui est sorti secret. Puis même dans la thématique, je vais revenir un petit peu à ce que je disais par rapport à la rupture. Je m'excuse à toutes les personnes qui vivent la même situation que moi. Je vulgarise, je paraphrase un peu. Mais on comprend que il y a j'ai vraiment mis de l'avant une réalité androgyne au Québec. Je me suis placé de l'avant pour vous, pour qu'on ait ce dialogue-là. Mais le dialogue n'a pas nécessairement tourné toujours en faveur des gens qui s'associent pas nécessairement au genre homme-femme ou quoi que ce soit. Fait que ça a brassé des choses et c'est pas nécessairement tout le monde qui était prêt à ça. Fait que je vois un peu la chanson Secret comme on a parlé de vos secrets maintenant que c'est sur la table. Le dialogue est entamé.
Ouais.
On peut passer à autre chose.
Ben justement, le dialogue va continuer cet automne avec la sortie de son album. On n'a pas de date. On l'attend avec impatience. Il y a entre autres Marius Larue, qui est le fils du saxophoniste qu'on avait entre autres entendu sur Feuille de personne, mais qui a réalisé cet album-là. Puis moi, je le connais parce qu'il fait partie de la scène hip-hop de Québec.
Toujours mais, le rap avec toi, Félix.
Là, justement, il collabore avec, entre autres aussi, le grand frère de Hubert Julian, donc il ouvre finalement ses genres de musique et il est entre autres, on le voit entre autres dans le vidéoclip. L'as-tu vu le vidéoclip?
Ben, je suis en train de le visionner en même temps qu'on parle parce que j'avais vu le visuel qui accompagnait ce qui est sur la photo. On voit que Hubert prend le personnage d'une moufette.
Ouais.
S'inscrit même dans un. Veut se représenter avec un personnage qui est répugnant.
Ouais.
On le voit avec la fameuse scène où la dame lui tape dessus avec un balai.
C'est aussi qu'il arrive dans la cour d'un de ses collègues de classe,
Par surprise. Et on voit aussi sa copine Noémie tout le long du vidéo qui tourne un peu l'espèce de court-métrage ou documentaire qui est derrière un peu ce qu'on comprend pas trop.
On voit ici une mise en abîme parce que c'est elle qui a aussi qui est la vidéaste derrière justement ce vidéoclip.
Donc à la fois à l'intérieur du vidéo mais derrière la caméra par moment aussi. Fait que on voit vraiment Hubert qui parle de ses secrets comme quoi qu'il s'est peut-être vu aussi que c'est un peu projeté comme un personnage qui a été pour certains répugnant puis il illustre très très bien. Puis on est encore dans une magnifique représentation artistique de la non-acceptance de plusieurs personnes par rapport à des conditions sociales, à des causes sociales. Puis Hubert est incroyable pour illustrer ces trucs-là. Cet artiste-là, je l'adore. Je lui dis salut pour son audace et je lui dis sérieusement... incroyable ce qui s'est passé. Puis on souhaite l'avoir en entrevue, honnêtement.
Tout à fait. Moi, je finirais ce segment en parlant un peu parce que... En fait, moi, de ces temps-ci, là, je regarde les artistes, je me dis, quel artiste va avoir une longévité comme on a? On pense aux artistes québécois dans les années 70, on peut penser à Robert Charlebois, à Gilles Vigneault, il y en a plein, René Claude, on peut penser à énormément d'artistes qui sont encore d'actualité. De nos jours, quel artiste va pouvoir traverser le temps? Hubert Lenoir, selon moi, en est un.
Oh,
je me base, entre autres, sur son dernier album, album, mais avec son vidéoclip, il y a un petit côté aussi humain à la fin complètement où il y a un petit segment où je sais pas c'est qui, mais c'est sûrement la mère de quelqu'un qui fait partie du vidéoclip qui leur demande
de le maquiller, right?
Ouais, puis qui demande voulez-vous quelque chose à manger ou quoi. En fait, il y a une petite partie, une espèce de 30-45 secondes où il y a un côté humain que j'ai l'impression qu'il y a un lien à faire avec le côté humain aussi qu'on faisait avant, qu'on a un peu perdu avec, entre autres, le fait que la musique est rendue commerciale. Donc,
ouais.
Ça serait très long à expliquer pourquoi Hubert Lenoir va perdurer à travers le temps, mais ça serait un noir tenu.
C'est qu'il fait pas de la musique pour faire de la musique. Tout texte, toutes ses réalisations sont tellement poussé loin dans l'art
réfléchi.
Et quand même, Darlene, je pense que c'est en 2019, il a quand même réalisé, il est en train de qu'il va nous sortir un album l'automne prochain, en 2 ans, puis c'est probablement encore quelque chose qui va faire encore bouger des trucs. Je m'attends pas à quelque chose de moins que ça. Je pense qu'il va revenir sur la scène artistique québécoise avec du repos, mais avec des idées puis des choses à redéfendre.
Puis je parlais aussi des gens qui vont dont plusieurs vont se rappeler. Moi, si c'est pas Hubert Lenoir, autre au Québec, il y a Claude Pelgag, entre autres, qui arrive avec de la musique qui justement défie tout ce qu'on a l'habitude de voir, puis apporte une innovation sans précédent. Mais justement, à quoi on peut s'attendre finalement, pour conclure, avant d'y aller avec une pause publicitaire, à quoi on peut s'attendre cet automne avec Hubert Lenoir? Est-ce qu'on peut s'attendre à un son qui va ressembler à cette chanson-là?
Je vois vraiment une tournure vers l'électro.
Okay.
Simplement parce que c'est un son qui est apprécié en ce moment. Hubert veut quand même rester dans un... sans dire seulement un son radiophonique.
C'est intéressant ça, parce que est-ce qu'il veut être populaire,
c'est ça,
ou pas?
On a eu la discussion, parce qu'on a écouté le single ensemble en s'en venant au studio. Il y a eu Fille de personne 2 qui est passée à la radio. Le restant des gens qui ont accroché à ça ou qui se sont attachés à Hubert, c'est pour sa fibre artistique et le restant de l'album de Darlene, ou qui avait déjà lu le livre. Je pense que peut-être que Hubert va aller rechercher une chanson qui va être peut-être plus radio-friendly, je dirais.
Un hit.
Puis le restant de son œuvre va être à découvrir pour ceux et celles qui sont vraiment intéressés à ce qu'il fait et qui sont déjà ouvert à une certaine forme de nouveauté, une ouverture sur le dialogue. C'est sa place comme artiste. Puis je me rappelle de son entrevue à Tout le monde en parle où il disait, ben si être artiste, c'est juste de faire de la musique, ben ça m'intéresse pas. Moi, je suis là pour faire bouger les choses. Fait que je le paraphrase encore parce que je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il dit, sa date, là. Mais il est là pour faire bouger les choses, puis c'est ce qu'il veut, faire de la revendication. Puis il avait aussi choqué l'équivalent de Tout le monde en parle en France, quelqu'un qui est arrivé avec son tutu,
oui,
puis qui avait littéralement foutu la merde en studio là-bas.
Mais en France aussi, ça
pogne,
ça y
ça
va.
Pogne,
ben, je veux dire, quand c'est des plateaux comme ça, là, Tout le monde en parle, tu peux croire que les gens ils lancent des pointes, mais en France, c'est pas
c'est
jojo.
Pire, c'est pire.
On va y aller pour une pause publicitaire après avoir fait un bon segment sur Hubert Lenoir. On va espérer, comme tu le dis, le recevoir en studio.
On le souhaite. Hubert, si tu nous écoutes, s'il vous
je
plaît,
sais pas,
j'ai fait
pas
un travail de paiera sur toi.
Au retour pour les 30 dernières minutes ou du moins une 15-20, on va être avec Sarah-Jane Ouellette pour la série Chérie, je suis poète. Elle va nous parler justement de sa carrière et puis elle va même nous réciter un poème. Donc, restez avec nous après la pause.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Balle frappée solidement par Wild du côté gauche.
Ouais.
Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
C'est de retour à l'émission Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. On est en compagnie de Sarah-Jane Ouellet pour le segment Chérie, je suis poète. Salut Sarah-Jane, ça va bien?
Salut, oui, toi?
Oui, justement, on voulait apprendre à te connaître, on voulait parler poésie. Tu m'as dit que tu venais du Saguenay, que tu es arrivé il y a quand même un bon petit bout à Québec, puis qu'avant tu faisais plus, tu étais plus dans le théâtre. Comment ça a commencé à Québec finalement?
Oui, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis dans le collectif Ramène, mais ouais. Ça, pour moi, l'art en général, ça a vraiment commencé par l'écriture.
Okay.
Quand je suis arrivée à Québec, puis la poésie, c'était vraiment quand je fréquentais les soirées mensuelles du collectif Ramène.
Okay.
J'ai commencé mon réseau d'amis artistes, en fait, comme ça.
Okay.
Puis j'étais allée déjà à des soirées avant même d'habiter à Québec, parce que j'avais des amis de la famille ici.
Mm-hmm.
Puis j'aspirais déjà à habiter à Québec, puis m'épanouir plus dans le milieu artistique, parce qu'au Saguenay, c'était très limité à ce qui se passait, par exemple, au Cégep. J'avais pas nécessairement d'amis artistes, là, fait que on dirait que c'était moins...
J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns, mais que c'est niché comme artiste au Saguenay.
Ouais.
C'est ça, mais je pense qu'il y a une fibre artistique tout de même au Saguenay, mais oui, corrige-moi oui. S'il faut le dire comme ça, mais c'est beaucoup plus de l'art qui est plus de près traditionnel québécois.
Je pourrais tellement pas m'avancer là-dessus.
Okay, je posais la question parce que c'était quand même... ramener à Québec
oui.
pour t'ouvrir à une nouvelle scène artistique. Mais qu'est-ce que t'as vraiment amené ici? Est-ce que c'était parce que c'était plus éclectique? Est-ce que c'était plus différent?
Les événements au Saguenay sont très ponctuels. Okay. Tu sais, c'est comme... il va y avoir un événement cette fin de semaine.
Tout le monde est là.
Tout le monde est là. tout le monde que tu connais, du moins, va être là. Fait que je pense que j'avais le goût de nouveauté, de mouvement un peu plus, puis de spontanéité.
Mm-hmm.
C'est pas qu'il y a aucun art au Saguenay.
Non, c'est vraiment pas ce que je sous-entendais.
Non. je sais. Mais je veux dire, moi, même dans mon propre discours, des fois, c'est comme si je disais il y a rien au Saguenay, mais c'est pas nécessairement ça, plutôt que j'ai vécu là sais, j'avais vécu là toute mon enfance, puis j'étais juste tannée d'y être, là.
Je comprends qu'il peut y avoir peut-être un manque d'ouverture. On ne veut pas tomber non plus dans les préjugés du Saguenay, mais je comprends pourquoi à Québec, il peut y avoir peut-être une plus grande présentation puis possibilité finalement d'événements. Donc, tu as parlé du collectif Ramène, mais tu as aussi le collectif Les Bourrasques qui font partie de ton historique en tant qu'artiste. Tu m'as dit que pour toi, l'art, ça a commencé avec l'écriture. Quelle forme d'art as-tu pratiqué?
Quelle forme d'art à partir...
Il y a les zines que tu as faites, il y a de l'art textile. Ouais. Là, aujourd'hui, on se rend compte parce que tu fais de la poésie, donc... dans tout ça, avec les collectifs aussi. Ramène-moi, je suis pas trop au courant de... Tu parlais des soirées mensuelles. C'est quoi exactement?
Oui, ben j'ai commencé, c'est ça, par le collectif Ramène, puis après ça, on ira dans les bourrasques.
Oui.
Ouais, le collectif Ramène, les soirées mensuelles, c'est des micro-ouverts qu'on faisait à la librairie Saint-Jean-Baptiste pendant plusieurs années quand même. Puis là, cette année, c'était toujours en virtuel. On a fait plusieurs formules qui étaient quand même cool. Les premières fois, c'était... mars-avril, donc on pouvait être dehors, puis on faisait des lives où on se promenait, en fait. Puis il y avait des gens qui étaient à différents endroits, puis on se rendait à eux. En tout cas, c'est dur à visualiser comme ça, mais après ça, on s'est mis à être dans des lieux plus fixes, mais faire des lignes ouvertes, que les gens nous appelaient.
OK. C'est quand même une stratégie assez...
C'est créatif.
C'est créatif, mais j'allais dire quasi un retour à ce qui pouvait être les formes de communication puis divertissement avec, qui pouvait se faire par les lignes téléphoniques avant, mais... remis à aujourd'hui, c'est plus qu'original. C'est d'avoir une envie de retourner vers le rétro.
Oui, ben nous, c'était vraiment pour garder un rendez-vous puis garder une connexion avec les gens. Parce que, tu sais, je pense que ça a le... Je pourrais pas dire le nombre d'années, là, mais ça fait plusieurs années qu'à chaque mois, il y a vraiment une soirée, sauf parfois l'été où on prend une pause. Puis on voulait pas arrêter pendant la pandémie parce que, premièrement, on savait pas quand est-ce à l'arrêter.
Ouais.
Fait qu'on voulait pas non plus se dire « Ah, ben on recommence seulement quand on va pas être en présentiel, parce que sinon... »
Ouais, ça aurait été fatal pour d'auditeurs puis beaucoup de cette clientèle qui est dans le milieu artistique. Ouais. Mais je trouve vraiment l'idée originale. J'aime beaucoup.
J'aimerais ça rebondir sur ce que tu as dit. Ça serait fatal pour beaucoup de gens. Puis souvent, on dit que la poésie, c'est ce qui fait en sorte qu'on est... On est humain, puis ça fait partie de nous, puis c'est un peu une raison de vivre. Pour toi, la poésie, est-ce que... j'ai l'impression qu'il y a un courant populaire pour qui la poésie, c'est inaccessible, la poésie, on comprend rien, la poésie, c'est trop littéraire, la poésie, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Pour toi, la poésie, comment ça a commencé dans ta vie? Comment tu t'es intéressé à ça?
Oh mon Dieu. Moi, aujourd'hui, la poésie, je vois ça comme tout le contraire.
Ben oui.
Mais comme toi aussi, sûrement. Mais c'est vrai que ça peut avoir l'air inaccessible et tout ça, mais pour moi, comment c'est arrivé, je pense que c'était vraiment un besoin de revendiquer puis de prendre la parole.
Okay.
Puis la poésie est venue naturellement.
C'était ton moyen.
Oui. Okay. À ce moment-là, je faisais des rimes, puis c'était comme...
C'était un peu des
rap. Je connaissais pas la poésie sans rimes.
Okay.
Mais là, quand je suis arrivée à Québec, dans les soirées ramen, j'ai dit, ah, OK, la poésie...
Tu peux faire ce que tu veux.
Peut être n'importe quoi, tu sais. J'ai l'impression que c'est plus une question de rythme et d'intention que n'importe quoi d'autre, tu sais. Il peut y avoir de la poésie qui est comme en prose, qui est pas nécessairement en vers, qui peut être rimé ou pas. C'est super libre.
Fait que toi, c'est ça qui t'a attiré, c'est de voir que finalement, tu pouvais dire ce que tu avais à dire puis sans nécessairement respecter une structure qui, pour plusieurs, se disent « la structure est comme ça » puis c'est pour ça que la poésie, j'aime pas ça.
Ben c'est ce que j'allais dire. Je vais compléter là-dessus un petit peu, Félix. Moi, au début, là, mettons, je me rappelle de mon cours 1 du cégep où j'avais des trucs de Victor Hugo à analyser. Puis moi, la structure poétique, là, j'ai haï mon cours de français. Puis il a fallu que j'aille une autre approche d'un autre prof après avoir coulé ce cours de français-là, puis qui m'amène une autre vision totalement de la poésie, puis qui nous amène à en écrire sans toute cette structure super rigide de viser l'alexandrin, viser les rimes en A, B, B.
Qui est pas naturel.
Puis je pense que, en fait, de mon côté, c'est ce qui m'a fait aimer la poésie, c'est qu'on peut écrire de la façon qu'on veut, puis l'écriture spontanée même est un courant poétique au Québec. J'ai pas d'artiste nécessairement qui me vienne directement en tête, mais je me rappelle en avoir lu quand même récemment sur le web, de juste utiliser des mots que tu piges, puis de former des images avec ça. Mm-hmm. C'est ce que je trouve vraiment agréable de la poésie, c'est y a plus de limites. Le genre s'est vraiment démocratisé.
Oui, puis par chance, dans les universités, du moins à l'Université Laval, ben, le cours de poésie n'est pas monté comme ça.
Oui, ben, moi, c'est au cégep.
C'est ça, mais j'ai l'impression que même dans les cégeps, c'est encore... Tu sais, on apprend, comme tu dis, A, B, B, je sais même pas ce que c'est.
Ben, c'est plus dans le fond, mettons, tu vas faire une rime en E, d'affilée, puis après, tu vas changer pour O, puis après ça, tu vas retourner avec E, puis tu vas suivre des rimes...
Il faut que tu gardes, c'est ça.
Faut que tu gardes, c'est ça. Mais c'était long, là, c'est pas créatif, rendu là, c'est obligatoire.
Fait que c'est pour ça que je trouve les soirées... On n'est pas les seuls qui font des soirées mensuelles, mais tu sais, les micros ouverts, de façon générale, je trouve que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, en fait, juste d'y assister, de voir qu'est-ce que les autres font, qu'est-ce qui se dit, puis ça vient vraiment ouvrir, après ça, la propre pratique de tout le monde, là, j'ai l'impression.
Ben oui, puis ben là, on parle des micros ouverts, des soirées ouvertes du collectif Ramène. On peut maintenant parler des bourrasques.
Oui.
Explique-moi, c'est quoi?
Les bourrasques, en fait, c'est un projet qui a un seul, tu sais, qui a un but. Mm-hmm. C'est vraiment parler du corps féminin.
OK.
Et de tous les enjeux qui entourent ça, des oppressions, mais aussi de la beauté. Mm-hmm. Puis, dans le fond, c'est vraiment parti d'un désir de... se mettre ensemble pour faire soit monter un spectacle ou qu'on allait justement mettre des textes ensemble ou réfléchir en faisant des ateliers collectifs. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On se rencontre de façon ponctuelle, puis on teste les limites, en fait, du corps, des trucs qu'on n'aurait pas fait seul ou qu'on n'aurait juste pas osé faire.
Peux-tu me donner un exemple?
Oui, ben le premier atelier qu'on a fait, c'était de l'acro-yoga.
OK.
Je pense pas que je serais allée faire de l'acro-yoga par moi-même. Je me serais dit, mon Dieu, je suis pas assez souple, je suis pas assez flexible, je suis pas trop. Mais finalement, c'était une super belle expérience de groupe. Puis au fur et à mesure qu'on les fait, c'est ça, on se teste nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis en même temps, ça vient débloquer plein de sujets poétique, plein d'idées de textes, ça vient... tu sais, le corps parle beaucoup en poésie, pour moi personnellement, puis sûrement pour plein d'autres artistes. Vraiment, ce qu'on ressent, ça va au-delà des mots, ça va vraiment dans les sensations.
OK.
Puis parfois, une sensation peut faire ressurgir une expérience passée, ça peut faire ressurgir n'importe quoi.
C'est en lien avec la mémoire, quand même.
Ah, vraiment? Puis je pense, entre autres, que tu parles de mémoire, c'est drôle parce que dans la vie, j'ai vraiment pas de mémoire.
Ah non?
Mettons, une mémoire factuelle.
OK. Mais des émotions que tu ressens, là, tu vas dire, ah, j'ai déjà ressenti ça.
C'est ça. Okay. Fait que j'ai l'impression que c'est vrai que, en fait, mon corps se rappelle de beaucoup plus de choses que ma tête.
C'est intéressant. Ouais.
Mais quelque chose de très sensoriel au niveau... Ben, sensoriel, je dirais, plus que
j'oublie... Intellectuel.
Intellectuel, mais sans dire que t'es pas... prends-moi pas au mot même, là, je suis pas en train de dire que t'es pas intellectuel du tout, là, c'est pas ce que je veux dire. Mais ça m'amène à juste glisser un petit mot au niveau de la poésie. Tu parlais de l'expérience du corps de la femme, de un peu d'extérioriser tout ça. Moi, il y a une poète montréalaise, Chloé Savoie, Bernard, que j'ai littéralement accroché à ses textes. Je l'ai découvert au cégep, justement, puis j'avais fait ma suite poétique inspirée de ses poèmes. Puis je trouvais qu'elle avait justement cette capacité-là à nous faire ressentir quasi physiquement des souvenirs de tout genre. Autant d'un côté qui était plus érotique sur certains poèmes, qui était d'autres qui étaient plus axés sur juste le ressenti d'être dehors, que le ressenti d'être dans une ville. T'sais, elle est très, très dans la poésie sensorielle ou dans l'expérience, voire créatif. C'est dur, j'ai pas le lexique au niveau de procédé créatif poétique, mais je trouvais ça super. Puis les ateliers comme l'acro-yoga, j'imagine, ont amené cette dimension-là dans ton procédé de poésie, mais à part de ça, quel genre d'activités te permettent de feeder tes cahiers de notes et de poèmes?
Oh mon Dieu!
Vu que toi, tu as une belle, grande mémoire sensorielle.
Oui! Ben, moi, en fait, je suis vraiment quelqu'un qui va écrire par projet quasiment.
OK.
Ben, je suis tellement arrivée rapidement dans le collectif Ramen, un peu par. Par hasard, là, j'ai envie de dire, parce que c'était même pas parce que
par
j'écrivais...
Destin. Par destin, c'est oui. plus beau. Tant qu'à faire une chronique poétique, on va trouver les mots.
Oui. Parce que là, si on veut faire une parenthèse de ma vie hors poème, ben, j'ai étudié en administration. En ce moment, je travaille dans le communautaire, puis okay. en tout cas, tout ça est lié. Puis le collectif Ramène, comment je suis arrivée dedans, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un pour les aider en admin. J'ai jamais okay. vraiment aidé en admin. Finalement, je fais de la perf avec eux. Puis j'écris, mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est un très gros hasard. Fait que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite embarqué dans les projets, dans les performances, puis on était souvent sollicités. Mm-hmm. Fait que ça faisait que pour moi, ben, ça me stimulait, en fait, juste d'avoir une thématique, juste d'avoir une mise en scène en tête, avoir les autres, tu sais, voir les autres créer par rapport à un même projet. Puis je pense que c'est ça, après, qui m'a vraiment donné envie de créer en collectif. Parce que à la base, tu sais, quand t'écris tout seul dans tes cahiers, ben tu sais pas vraiment ton avenir comme artiste, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment ça, tu sais, vers où t'évolues ou quoi que ce soit.
Puis c'est ça, tu peux te perdre un peu.
Ouais, exact. Puis moi, je sens vraiment que... Quand je suis toute seule, il y a certains types d'art que je vais apprécier, mais c'est vraiment rare que j'écris seule ou que, mettons, je prends un après-midi, je vais écrire.
Okay.
D'où est arrivé les autres arts dans ma vie, comme l'art textile, ça, je peux faire ça une soirée de temps. j'ai comme pas l'impression que c'est...
C'est une tâche, c'est plus... T'as le fun à le faire.
C'est ça. Ben, l'écriture aussi, c'est pas vraiment une tâche, mais c'est plus intellectuel. Il faut plus que je réfléchisse et que ça me prend plus d'énergie.
Ouais.
Mais j'adore le faire. Mais c'est pour ça que j'aime ça aussi. En fait, je suis contente d'avoir développé d'autres types d'art, puis ça me permet aussi de les mélanger dans, dans mes créations. J'avais commencé avec la broderie il y a peut-être 2 ans et demi, environ, 2 ans et demi.
OK.
Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'art textile, chose que j'avais jamais touché à une aiguille avant.
Gabriel, tantôt...
J'ai vraiment été totalement à côté. Moi, dans l'art textile, j'étais dans de l'art tangible. Fait que je me suis dit, elle fait de la poterie.
j'aimerais ça.
Pour la définition de l'art textile, pour ceux qui nous écoutent, comment tu définirais ça?
Ben, en fait, je travaille avec de la laine.
OK.
Puis tout ce qui est... Ben, moi, j'avoue, textile, tout ce qui est tissu.
Okay. Pour moi, c'est plus tissu,
ouais,
c'est
mais non,
ça.
C'est vraiment juste... Ben, c'est un mot
toi, c'est,
mitard,
tu t'es mélangé.
Je sais pas quoi dire d'autre. Je me suis juste mélangé, mais tangible, c'est ce qui m'était venu en tête. Parce que textile, dans ma tête... Je sais pas, je comprenais pas. Mm-hmm. Mais à y repenser, la broderie en est. La couture, même, c'est un peu aussi une forme d'artisanat. Mm-hmm. Peut être vraiment amené d'une façon artistique. Je pense à toutes les ben, comment on appelle ça? Ben, en français, le mot en anglais que j'ai, c'est pattern. Là. Mais je pense aux pulls islandais qui ont vraiment des motifs répétitifs. Les kilts écossais, ben, ça a été pensé par quelqu'un. Hein? Puis ça fait partie du patrimoine culturel de plein d'endroits. Fait culturel, ben, culturel, art, artisanat. Fait que j'ai compris textile entre temps, mais tantôt, j'étais vraiment dans le champ.
Avant d'y aller pour ma dernière question, je te laisse compléter finalement ta définition de l'art textile. T'as pas pu terminer.
Ah oui, ben, on a un peu. Je pense qu'on a fait le tour, mais c'est ça, tu sais. Une autre affaire que je fais, c'est du tapis avec de la laine acrylique.
Okay.
Mais c'est dur à visualiser, là, mais c'est une espèce de crayon que tu fais passer de la laine dedans. Puis dans un tissu qui est fait avec des petits trous, là, vraiment minuscules, ça s'appelle du punch needle.
OK.
Tu punches dedans, puis en refaisant une loupe, ça crée...
une couleur.
C'est ça, l'espèce de boucle reste.
Ouais, OK.
Fait que je fais ça aussi. Ça fait pas longtemps, mais j'en fais plein. Puis ça, c'est le genre de choses que je peux faire la semaine, un peu n'importe quand, puis que ça me fait du bien. Là.
Avant d'y aller avec ta récitation de ton poème que tu nous as préparé, je voulais justement conclure avec une question. Moi, c'est une question... Depuis que je m'intéresse à la poésie, que je me pose pas mal à tous les jours, puis je voudrais savoir ton avis là-dessus. Pour toi, dans ta vie, comment ou quand est-ce que tu vois de la poésie? Ou comment est-ce que la poésie se manifeste dans ta vie quotidienne?
Écoute, la poésie, c'est une question d'ouverture.
Okay.
100% sur les événements qui se passent, sur ce que tu vois, ce que tu entends. Il y a de la poésie dans... dans n'importe tout. Quoi, honnêtement. Là, si tu as un. Surtout quand t'en écris ou t'en consommes ou que tu vas à des soirées, tu développes une espèce de sensibilité aux événements autour de toi, puis des inspirations dans des choses que les gens n'auraient jamais remarquées. Là. T'sais, des inconnus, que je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais que pour toi, ça te rappelle une émotion ou que. C'est qu'on développe aussi beaucoup une empathie, j'ai l'impression, juste en côtoyant. Des artistes puis l'art des autres là, sans nécessairement côtoyer les artistes en tant que tels, mais en s'intéressant à tout ce qui est artistique, tu développes une grande empathie pour les sensations, les textures, les mots. Fait que j'ai l'impression que la poésie, c'est une question de...
D'ouverture et de sensibilité.
C'est ça, c'est d'être capable de le recevoir.
Ouais.
Puis de. Tu sais, dans une posture d'acceptation et tout.
C'est
ça.
C'est bien répondu parce que, justement, je trouve que sensibilité, c'est le mot parfait parce que pour moi, c'est la sensibilité dans les petites choses de la vie, comme tu l'as dit, que parfois tu vas juste pas le remarquer. Puis les gens qui croient pas à la poésie, je sais pas si ça existe, mais.
Ça existe pas, ça.
Ne voient pas.
Tu essaies de créer quelque chose. Il y a de la poésie même dans Mario Striker.
C'est ça, c'est ça. Le voilà, c'est le lien. On va y aller maintenant parce que ben il nous reste un bon 3-4 minutes. Donc, je vais te laisser avec. On va fermer nos micros, puis on va te laisser réciter ton poème que tu nous as préparé. Je te laisse aussi peut-être le présenter un peu avant de le réciter.
Oui. Oui, bien. À l'heure où qu'on se parle, il y a présentement un rassemblement contre les violences faites aux femmes. Puis, dans le fond, j'avais envie de lire ma dernière exposition que j'avais faite en art textile et poésie. C'est de la poésie manifeste. Puis, c'est vraiment pour dénoncer ces violences-là. Une espèce d'écœurantite aussi, de répéter tout le temps, puis de se dire qu'on ne peut pas croire que ça se passe encore aujourd'hui. Donc, ça se nomme « La violence se loge sous vos ongles sales », une installation en art textile, poésie et manifeste. Partie 1. Je ne fais plus confiance aux maisons. Arrêtez de nous tuer. Le message se veut pourtant compréhensible. Nous ne devrions plus implorer. Le 2 avril 2021 au Québec, on dénombre officiellement 8 féminicides en 8 semaines. Puis aujourd'hui, c'est 13. À un moment donné, Christ, s'il faut écrire les mots exacts, je me sacre de la portée poétique, arrêtez de nous tuer. Allez consulter. Dénoncez vos amis violents. Sacrez-nous la paix. Ce sont vos ongles crasseux d'hier. Partie 2. S'éteindre à l'intérieur de vos paumes tous les jours. En sécurité, nulle part. Entre les murs, un silence a tout cassé. L'invisible résonne, nous apprenons à la dure. Vos paumes, nous les ressentons même à distance. Cavalerons-nous encore au-delà de l'entendement? Quand serez-vous punis? Partie 3. Adieu, mon amour. Désormais, il faut promettre de nous préférer vivantes. Au creux de nous, une peur s'installe au compte-gouttes. Ce sont des fractions de secondes, parfois des coups de vent. J'ai commencé à craindre à force de vieillir, après une enfance des plus naïves. Depuis, on a dépassé mes limites, méprisé mon corps.
Aujourd'hui, je fuis les regards, vérifie les portes de sortie. Aujourd'hui, ma confiance se mérite. Je connais trop bien les statistiques. Puis je vais vous en lire quelques-unes. Au Québec, 96,8% des agresseurs sont des hommes et 78,1% des victimes sont des femmes. 87% des agressions sexuelles sont commises dans un domicile privé. Et la majorité des victimes connaissent leur agresseur.
Merci pour ça, Sarah Jane. C'est un message qui vaut la peine d'être dit, surtout avec l'événement d'aujourd'hui, avec la marche. Donc, merci beaucoup d'être passé à Chérie, j'arrive, puis de nous avoir récité un de tes poèmes dans le cadre de la chronique Chérie, je suis poète. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, c'était un très beau poème. Je tiens le Henri en chérir en disant que c'est vraiment important que si vous êtes en danger, vous vous sentez quoi que ce soit, il y a des lignes qui sont disponibles pour ça. Il y a des centres d'aide pour aussi des hommes qui sont violents ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est important. C'est quelque chose qui doit stopper et maintenant.
Mm-hmm. Puis, ben, juste la ressource là, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là, c'est SOS Violence Conjugale. Au Québec, c'est la place qui va pouvoir vous référer à toutes les maisons. Parce qu'en fait, quand tu appelles dans une maison, s'il n'y a pas de place, c'est un peu plus complexe. Ça se peut qu'il va falloir que tu appelles ailleurs et tout. Donc, c'est ce que je recommanderais, là, les personnes en détresse.
On rappelle que c'est 24 heures sur 24. Puis, on l'a entendu beaucoup dans le temps de la pandémie que ben c'est pas parce qu'on est en confinement que faut s'empêcher d'aller mm-hmm. chercher des ressources. Là. C'est toujours le temps de le faire. Par question de temps, mais aussi par question que c'est pas vraiment le mood d'aller mettre une chanson vraiment énergique puis faire la conclusion, on va y aller avec un retour rapide sur l'émission d'aujourd'hui. On a reçu Dr Mad dans les 15 premières minutes. Après ça, on a parlé avec le duo Mayfly pour leur EP Essence qui est sorti dernièrement. On a parlé avec Laure Bourgault pour Priorité aux incontournables. Et on vous a parlé quand même un bon 5, 8, 10 minutes de Hubert Lenoir. Et on a terminé avec la chronique Chérie, je suis poète avec Sarah-Jane Ouellet. Donc, merci encore d'être passé à l'émission, Sarah-Jane.
Merci à vous.
Salut. On se laisse pour la pause publicitaire. Puis après ça, il y a les architectes du son. Nous, on se dit à mardi. Que demain, il n'y aura pas d'émission. On commence à prendre l'horaire plus. On va commencer à couper un peu les émissions parce qu'on
flippe avec la programmation. Chérie, j'arrive en route vers les festivals.
Exactement. Puis, on se retrouve mardi à 16h. Sur les ondes de Chiz 94.3.
Je me souhaite une dernière fois bonne fête. Hein,
bonne fête à toi, Gabriel.
Bonne fête. Salut.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Yeah, baby, je vais passer mon tour. Focus et que sur la line.